Il y a plusieurs années de cela déjà, je travaillais dans une école. Et dans cette école, ils avaient l'habitude d'utiliser pendant les mois d'été les bâtiments où les élèves logent d'habitude pour y loger des gens qui souhaitaient passer des vacances. Les élèves étaient rentrés chez eux, les chambres étaient libres et ils louaient ces chambres pendant quelques semaines pour des gens qui souhaitaient profiter de la région. C'est ainsi que l'école se remplissait pendant l'été de toutes sortes de gens. Des chrétiens, des membres de l'Église, d'autres, qui venaient passer des vacances tranquilles dans cet endroit-là. Et j'étais avec un autre ami responsable d'un de ces bâtiments. Un jour, des gens qui étaient là en pension pendant l'été sont venus nous dire « Il y a une personne qui a un comportement bizarre la nuit dans ce bâtiment. » D'abord, la lumière est allumée toute la nuit dans sa chambre et elle se promène dans les couloirs et longe les murs. Elle a un drôle de regard. Vous pourriez peut-être regarder ce qui se passe. On a alors demandé à cette personne de la rencontrer. On lui a demandé s'il y avait une difficulté, s'il y avait quelque chose pour laquelle on pourrait l'aider. Elle nous a dit qu'elle avait une grosse difficulté parce que si elle éteignait la lumière, il y avait quelqu'un qui venait la visiter toutes les nuits. C'est pour ça qu'elle gardait la lumière allumée. Et c'est pour ça qu'elle allait hors de sa chambre dans les couloirs pour ne pas rencontrer ce personnage qui venait dans sa chambre quand il faisait noir. Alors nous avons parlé avec elle et nous lui avons demandé si elle savait ce qui se passait dans sa vie. Et puis elle nous a dit qu'elle avait depuis quelque temps abandonné son mari. Elle avait commis adultère avec un collègue de travail qui était médecin. Mais ce collègue de travail qui était médecin était impliqué dans les sciences occultes. Et elle avait compris que c'est à cause de cela qu'elle avait des visiteurs diaboliques nocturnes. Elle ne se sentait aucune force pour sortir de cette situation. Alors nous lui avons demandé si elle souhaitait avoir l'intervention de Dieu pour sortir de cette difficulté. Et elle a dit oui. Nous avons parlé avec elle, nous lui avons demandé si elle souhaitait se remettre entre les mains de Dieu pour que Dieu intervienne. Et elle a dit oui. Alors nous avons appelé deux anciens de l'Église et nous sommes descendus dans la chapelle qui était au sous-sol de ce bâtiment. Nous lui avons dit, voilà, vous allez vous mettre à genoux au milieu de nous et nous allons prier les uns après les autres. Et vous allez prier aussi. Nous sommes rentrés dans cette chapelle, il y avait une atmosphère lourde. On sentait les ténèbres, mais il y avait la lumière pourtant. Mais on sentait qu'il y avait une atmosphère lourde, très lourde. Un combat énorme allait se livrer. Alors les uns après les autres, les personnes qui étaient là, nous avons commencé à prier. Et nous avions la main sur elle. Son corps était devenu dur comme du bois. Elle s'est mise à trembler avec force. Puis nous lui avons demandé, maintenant c'est ton tour, prie. Et au moment où elle a voulu ouvrir la bouche, elle est restée figée, bloquée, la bouche ouverte. Alors la dernière personne des quatre a prié, demandant à Dieu de la libérer au nom de Jésus. À ce moment-là, elle est tombée par terre comme morte. Et après quelques instants, elle a levé la tête et elle a dit « C'est fini. » La paix était revenue en elle. L'atmosphère était encore lourde. Ça avait duré quelque chose comme 10 minutes. Mais nous étions tous épuisés comme si nous avions couru un marathon. Nous sommes dans une grande bataille, cosmique. Nous ne voyons pas toujours les forces en présence dans cette bataille, mais elle est réelle. Elle est réelle, elle a pris le monde dans sa totalité, et nous sommes régulièrement confrontés aux forces de l'ennemi dans des combats singuliers. Jésus a été confronté dès le début de sa vie aux forces de l'ennemi. À peine Jésus était né, l'ennemi voulait déjà le faire mourir. Et tout au long de son ministère, Jésus a été confronté à la puissance de l'ennemi d'une façon directe. Pour ne prendre quelques exemples, pensez à ce qui est rapporté dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4, où après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus voit un ange qui apparaît. Et cet ange lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Il n'était pas nécessaire d'en dire plus. Un ange qui serait venu du ciel n'aurait pas dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Un ange qui serait venu du ciel serait venu et aurait adoré Jésus, là, sur place. Mais celui-là est venu en disant « Si tu es le Fils de Dieu ». Et un moment après, il lui disait « Si tu m'adores ». Ses paroles l'ont trahi. Il n'était pas un ange du ciel, il était l'ennemi en personne. Et Jésus lui a résisté en disant, « Il est écrit. » Jésus va un jour dans la synagogue, et ça nous est rapporté dans l'Évangile de Marc au chapitre 1er. Je vous propose de regarder ce texte dans l'Évangile de Marc au chapitre 1er, au verset 23, il est écrit ceci. « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Jésus est confronté en plein culte à un homme qui est possédé par l'esprit du diable. Et ce qui est incompréhensible dans cette histoire, c'est que cet homme, au début de l'Évangile, va dire publiquement qui est celui qui est là dans l'assemblée. Il le dit, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu », alors qu'il n'y a personne dans l'Assemblée qui est capable d'en dire autant. Incroyable. Voilà que les démons, maintenant, sont capables de reconnaître qui est leur maître, alors que les hommes ne le savent pas. Jésus était là, confronté directement à l'agression de l'ennemi. Et vous vous souvenez que, les apôtres ont été eux aussi constamment confrontés aux attaques de l'ennemi. L'apôtre Paul avait essuyé un naufrage important et finalement il était arrivé avec ceux de son bateau sur l'île de Malte. À peine arrivé, ils font du feu pour se réchauffer et voilà qu'un serpent vient s'attacher à la main de l'apôtre Paul. Les gens qui étaient là étaient sûrs que vraiment, cet homme était un assassin, un meurtrier, parce qu'il avait échappé au naufrage, et voilà que finalement, les dieux, pensait-il, le rattrapent pour le faire mourir. Qui est-il, ce serpent qui s'attache à la main de l'apôtre pour arrêter sa marche, si ce n'est le serpent ancien, le diable et Satan. Vous vous souvenez de cette entrevue? Peut-être l'une des premières que l'on a en fait rapportée dans l'histoire biblique entre Dieu et Satan dans le livre de Job. Elle nous est rapportée au chapitre 1er, où Dieu va demander à Satan « D'où viens-tu ?» Satan aurait pu dire, aurait dû dire « Je viens des mains de mon Créateur. » Mais ce n'est pas ça qu'il va dire. Il va dire « Moi, je viens de la terre. » Et je fais sur la terre ce que je veux. Je m'y promène, je suis maître de la terre. Satan avait trop parlé. Dieu avait donné à l'ennemi l'occasion de se dévoiler par ses paroles et de dire qui il était. Inévitablement, nous pensons à ce texte de l'Apocalypse que j'aimerais relire avec vous dans le chapitre 12, où il nous est dit exactement où nous en sommes. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, se trouve ce passage que vous connaissez bien et qui nous met au clair sur la situation dans laquelle nous sommes sur la terre. Apocalypse chapitre 12, verset 7, il est écrit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. » Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ce texte est clair, nous sommes dans une guerre. Et nous oublions parfois que nous ne sommes pas sur une planète en paix. Nous sommes en guerre. Et je suis impressionné parce que le texte nous fait comprendre dans l'Apocalypse que cet ennemi de Dieu a réussi à enrôler dans sa révolte un tiers des anges du ciel. Combien sont-ils? Je ne sais, mais c'est beaucoup. Mais comment est-ce possible que cet individu ait pu détourner de Dieu un si grand nombre d'êtres célestes qui étaient auprès de Dieu et qui le connaissaient si bien? Comment est-ce possible? Je pense alors que si Satan a réussi à faire cela, pensez-vous que vous serez capable, vous, de résister à ces pièges? Et je pense aussi que si effectivement un tiers des anges s'est séparé de Dieu pour joindre le diable dans sa révolte, combien donc y a-t-il d'anges qui sont aujourd'hui enrôlés dans sa guerre et qui sont sur la terre? Combien sont-ils? Un grand nombre. Voilà ce contre quoi nous avons à lutter. Voilà ceux qui sont les agents de cette guerre dans laquelle nous sommes. Et figurez-vous, nous n'avons pas de choix. Ce n'est pas un choix qui nous est offert d'être impliqués dans cette guerre ou pas. Nous y sommes automatiquement. On ne va pas nous demander notre avis. Nous serons jetés dans ce conflit que nous le voulions ou non. Alors j'aimerais reprendre avec vous ce texte de l'apôtre Paul qui nous rappelle comment nous devons réagir dans ce combat. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, l'apôtre Paul nous précise que ce combat dans lequel nous sommes impliqués est un combat d'une autre nature. J'aimerais relire avec vous ce passage dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est écrit ceci. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il s'agit d'un combat spirituel. Toutes les armes que vous pouvez avoir dans vos placards ne serviront à rien. L'apôtre Paul nous rappelle, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le mot qui est employé ici est intéressant. Il est dit au verset 12, « Lutter ». Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce mot qui est employé là pour la seule fois dans le Nouveau Testament fait référence non pas à une guerre globale, mais à cette lutte individuelle, ce combat singulier avec une seule personne en face de soi. Ce n'est pas un mot qui désigne les guerres globales. Ça désigne ce combat, ce duel entre deux individus qui s'opposent. Nous montrant par là que si cette guerre d'un côté est globale, elle implique chaque individu en particulier, d'une façon personnelle. Et l'apôtre Paul va nous préciser contre qui nous avons à lutter. Il dit ici « les dominations ». C'est un mot qui fait référence à des chefs de l'armée de l'ennemi. Contre, dit-il aussi, les autorités. Le mot qui est employé là traduit l'idée de gens qui ont une responsabilité et la capacité de choisir pour vous. Le diable ne nous demande pas notre avis. Il ne nous donne pas la liberté que le Christ nous donne. Il veut choisir pour nous. Et l'apôtre Paul dit encore que nous avons à lutter contre les princes des ténèbres, cosmocrators, des princes qui ont en réalité une autorité cosmique, des princes qui ont une autorité très large, qui englobe notre univers. Finalement, les esprits méchants dans les lieux célestes, tous ceux qui ont été enrôlés dans cette guerre contre Dieu et Jésus-Christ. Voici ceux qui sont impliqués dans cette guerre et contre qui nous avons à lutter. Est-ce que vous ne vous sentez pas infiniment petit dans cette guerre? Et c'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi parce que si quelque part nous avons l'impression d'avoir quelques ressources en nous à opposer à ce monde des ténèbres, nous sommes totalement dans l'illusion. Notre faiblesse nous amènera au pied du Seigneur pour que sa victoire nous soit donnée. Mais il est bon aussi que nous sachions que l'ennemi s'attaque non seulement en particulier aux enfants de Dieu, mais aussi à leurs proches. L'ennemi travaille de façon subtile. Et nous avons des exemples proches de nous. Nous avons, il y a quelque temps, prié dans notre église pour un jeune homme dont on nous a présenté le cas et qui s'appelait Simon. Simon a 14 ans et sa sœur, qui était à Mont-Laurier, a rencontré le Seigneur, elle a rencontré l'église, elle s'est approchée de Dieu et voulait en savoir plus. Et alors qu'elle était en démarche pour s'approcher de Dieu, son jeune frère, 14 ans, un jour faisait du rangement dans sa maison. Il y avait sur une étagère au-dessus de lui des poids et haltères. Et un poids est tombé sur sa tête et a ouvert son crâne sur 5 cm. Il est tombé dans le coma. On l'a emmené à l'hôpital. Et les médecins ont rapidement constaté que son cas dépassait leurs compétences. On l'a envoyé à Montréal en vitesse. Et les médecins ont dit, il en a pour 48 heures. Il se sentait impuissant pour faire quoi que ce soit, tant son état était grave. Alors l'Église a prié. On a téléphoné à droite et à gauche pour informer les Églises, et nous l'avons été de la même manière, demandant de prier pour Simon. Et nous avons prié pour Simon lors de la réunion de prière. Plusieurs d'entre vous s'en souviennent. Et puis 48 heures après, Simon était encore vivant. Les médecins ont dit 72 heures sera le maximum qu'il pourra résister. L'Église a continué de prier. Les médecins ont tenté une trépanation. Et 5 jours après, Simon s'est levé de son lit. 12 jours après, Simon sort de l'hôpital et 14 jours après, il rentre à la maison. Les médecins le renvoient et lui disent « Simon va bien, on ne peut plus rien faire pour lui. » Mais ils ont avoué « On ne comprend pas pourquoi il est encore vivant aujourd'hui. » Certains savent pourquoi il est encore vivant aujourd'hui. C'est parce qu'il y a dans les cieux un Dieu qui entend les prières et qui les exauce. Le diable s'attaque non seulement aux enfants de Dieu, mais il s'attaque à nos proches, à nos enfants, à nos parents, à ceux qui nous entourent, à nos familles. C'est la raison pour laquelle il est important tout d'abord de saisir ses promesses. Et j'aimerais vous en rappeler une ici que vous connaissez dans le psaume 50, au verset 15, il est dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Il est important de se réclamer des promesses du Seigneur. Et en voici une qui est claire. Mais il est important aussi de savoir que nous n'avons pas seulement besoin de nous placer nous-mêmes sous la protection de Dieu, il est important que nous prions pour que nos proches soient aussi placés sous sa protection. Nous devons nous présenter à Dieu, mais présenter aussi ceux qui sont en danger à cause de notre témoignage et de notre position par rapport à Christ. Il y a là une démarche peut-être que nous n'avons pas l'habitude de faire, mais qu'il est important de reconnaître comme nécessaire. Jésus n'est pas simplement notre Créateur et notre Sauveur, il est aussi notre Protecteur et celui qui nous délivre. Et c'est à lui que nous nous adressons pour avoir la délivrance. J'aimerais revenir quelques instants sur ce texte que nous avons relu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous avons regardé le verset 12, j'aimerais aller à reculons vers le verset 11, où il est dit que le diable s'attaque à nous par des ruses. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le mot qui est employé ici est un mot que nous pouvons retrouver en français, c'est le mot méthodia, avec lequel nous avons fait le mot français « méthode ». Le diable nous attaque avec méthode. Il ne fait pas les choses au hasard. Souvenons-nous que l'ennemi contre lequel nous luttons a 6000 ans d'expérience avec la nature humaine. Et par conséquent, il a développé de la méthode, de l'adresse, de la subtilité pour s'attaquer aux êtres humains que nous sommes. Le diable utilise la ruse, nous dit le texte. Il a des méthodes, des tactiques pour nous faire tomber. Et nous comprenons à partir de là que ces méthodes des ténèbres demandent de notre part d'aller chercher la force là où seulement elle se trouve. Nous n'avons pas d'autre choix. Le texte nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Cette expression « toutes les armes de Dieu » c'est en réalité dans notre texte un seul mot que vous allez reconnaître aussi. C'est le mot panoplia. Panoplia, avec lequel nous avons fait panoplie en français. Qu'est-ce qu'une panoplie? La panoplie, c'est l'habit complet du soldat. Et lorsqu'on arrive à l'époque de Noël, on trouve dans les magasins des panoplies de toutes sortes de choses, toutes sortes de déguisements. Mais on ne peut pas se déguiser avec seulement un élément, il faut l'ensemble pour que la panoplie soit complète. D'ailleurs, panoplie, panoplia, est un mot qui est fait avec deux mots, pan, tout, et opla, arme. Raison pour laquelle le texte nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, revêtez-vous de la panoplie de Dieu, dans son ensemble, dans sa totalité. » Et en effet, nous ne pouvons pas dire « Ah, je veux bien le casque du salut, mais le reste, je n'en ai pas besoin. Je veux bien l'épée de l'esprit, mais le reste, je peux me débrouiller sans. » Dieu nous propose de prendre toute sa panoplie entière, parce que c'est au moins ça qui est nécessaire pour résister à l'ennemi. Et puis le texte nous dit, verset 11, « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Comme si l'on devait se revêtir comme d'un vêtement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce même mot est employé dans un autre passage que j'aimerais regarder avec vous dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Épître aux Galates, chapitre 3, nous lirons le verset 26 et 27. Il est écrit ceci. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Voilà ce que nous sommes invités à revêtir, revêtir Christ lui-même. Nous sommes invités à nous en revêtir comme d'un vêtement. Et le texte est intéressant. Il y a dans ce texte des subtilités qui nous échappent en français. C'est un impératif qui est donné ici. Et dans le texte du Nouveau Testament, il y a plusieurs sortes d'impératifs. Certains impératifs ont l'idée de continuer ce que nous sommes déjà en train de faire. Mais d'autres formes d'impératifs nous invitent à faire ce que nous ne faisons pas, ce que nous n'avons pas commencé à faire encore. Et c'est ce texte-là, lorsqu'il est dit « revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », le mot qui est employé ici sous-entend que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore fait et qu'il est grand temps de commencer à faire maintenant. L'apôtre Paul, dans ce texte, sous-entend, en parlant à l'église d'Éphèse, « Vous n'avez pas encore revêtu Christ et sa panoplie entière. Faites-le maintenant. » Ce message s'adresse, je crois, à nous de la même manière. Quels sont ceux d'entre nous qui ont revêtu cette panoplie complète? L'apôtre Paul nous dit, « Si vous ne l'avez pas fait, commencez maintenant. Il est grand temps de vous revêtir de cette panoplie de Jésus-Christ. » Mais pour pouvoir nous revêtir de cette panoplie de Jésus-Christ, il y a quelque chose à faire. Et la Bible nous le dit, ce qu'il faut faire. Je vous propose de le lire dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 13. Nous lirons dès le verset 11. Romains, chapitre 13, verset 11, il est écrit ceci. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous avez remarqué, nous sommes invités encore une fois à nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ, nous est dit dans ce texte. Mais pour pouvoir nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ, il nous est dit, dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres. Pour revêtir Jésus-Christ et la panoplie complète de Jésus-Christ, il faut nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Il y a encore sans aucun doute en nous des choses dont nous devons nous dépouiller. Ces choses qui barrent la route à l'intervention de Dieu. L'apôtre Paul en donne quelques exemples. Il y en a d'autres, bien entendu. Avant de pouvoir revêtir cette panoplie toute puissante du Seigneur, nous sommes invités à nous dévêtir des œuvres des ténèbres. À ce moment-là, alors, nous pourrons revêtir Jésus-Christ comme nous sommes invités à le faire et recevoir sa panoplie complète pour être secourus dans nos besoins. Nous sommes tous plongés dans le combat qui fait rage dans le monde aujourd'hui. Et nous n'avons pas le choix. Nous y sommes malgré nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur met à notre disposition sa panoplie. Cependant, nous devons la choisir. C'est un choix personnel que nous devons faire. C'est une demande particulière que nous devons adresser à Dieu, de nous accorder sa protection et sa panoplie divine. Nous devons la lui demander en sachant qu'il y a des promesses à la clé que le Seigneur est prêt à accomplir pour ceux qui s'en réclament. Et j'aimerais en terminant vous en donner deux ou trois. La Bible en est pleine de ces promesses. Elles doivent faire nos armes, notre ressource. Se revêtir de Jésus-Christ, c'est avoir avec lui ce contact unique, personnel et particulier qui nous permet de nous réclamer de promesses comme celles que nous avons dans Jean 16, par exemple, où il est dit au verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est là une promesse dont nous pouvons nous réclamer. Celui à qui nous appartenons a vaincu le monde. Et puis il y a cette promesse dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, où il est dit au verset 7, « Résistez au diable. » Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est là encore une promesse que nous pouvons nous approprier pour obtenir la victoire. J'aimerais vous en laisser une dernière qui est écrite par Ellen White, où elle dit ceci. Jésus a dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Réclamez cette promesse de Jésus et vous serez en sécurité comme si vous étiez dans la cité même de Dieu. Le Seigneur nous propose sa panoplie. Nous allons la prochaine fois la regarder un petit peu plus en détail pour poursuivre notre étude sur cette protection divine complète dont nous avons besoin. Mais aujourd'hui, il est nécessaire de lui demander de s'approcher de nous et de nous revêtir de cette protection. J'aimerais terminer aujourd'hui en vous proposant un moment de prière, un moment de prière silencieuse. Et j'aimerais vous proposer pendant ce moment de prière silencieuse de demander au Seigneur non seulement de vous couvrir de sa protection, mais j'aimerais vous proposer d'intercéder pour qu'il couvre aussi vos proches, ceux que vous savez qui vous entourent et qui sont l'objet d'attaques particulières de l'ennemi, ceux qui sont autour de vous, vos enfants, vos conjoints, vos parents. Que chacun s'adresse au Seigneur pour réclamer cette protection que lui seul peut donner. Nous le ferons dans le silence et dans le recueillement. Éternel, notre Dieu, ce matin, tu nous as rappelé à quel point tu es prêt à nous offrir cette panoplie divine de ta protection, dans ta bonté, accorde-la à tes enfants, accorde-la à ton Église, et qu'ensemble nous puissions marcher victorieux au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.